7h44.
Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Et sans transition aucune, nous allons parler d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron élu il y a 6 mois, on en parle énormément. Peu de présidents ont déclenché autant de commentaires, y compris au sein de France Culture, avec 2 camarades qui ont consacré chacun un livre à ce sujet. Brice Couturier, bonjour Brice.
Bonjour Guillaume.
Vous publiez Macron, un président philosophe aux éditions de l'Observatoire. À côté de vous se trouve Jean-Noël Jeannet. Bonjour Jean-Noël.
Bonjour.
Vous publiez Le moment Macron, un président et l'histoire aux éditions du Seuil. Et justement, si vous deviez nommer, préciser ce moment Macron, cette période que traverse la France aujourd'hui, que diriez-vous?
Je dirais qu'une fois de plus, l'histoire aide beaucoup à considérer la situation d'aujourd'hui. D'abord, 6 mois. Pourquoi 6 mois? Oui, d'accord, 6 mois. Cela conduit à réfléchir à la diversité des rythmes et provisoires, jugements sur ce qui se passe, comment les choses vont-elles évoluer. Je crois que dans un an, on jugera différemment. Très bien, parfait, on peut le faire. La question aussi des anniversaires. Vous avez vu que le président Macron a tenu à célébrer Clémenceau au moment même de ces 6 mois. Comme je préside le musée Clémenceau, je l'ai accueilli là et j'ai vu l'intérêt qu'il portait à cette histoire, à ce personnage, comme propre à nous éclairer. Et puis troisième éclairage de l'histoire, évidemment, la question des précédents, avec toute l'incertitude sur la vitesse. À quelle vitesse est-il allé? Je trouve qu'il est allé assez vite, tout en nous disant qu'on ne pouvait pas tout juger dès à présent, comme les précédents, comme De Gaulle en 58, comme Bonaparte en 1800. Et puis la question de l'équilibre.
Pas de belles références quand même.
Oui, mais je ne veux pas l'écraser. Mais après tout, il faut aller chercher au plus haut pour se revigorer, pour se donner quelques cœurs au ventre. Et puis la question évidemment de l'équilibre des centres. Pas un gouvernement du centre, mais un gouvernement des centres entre droite et gauche. Et là aussi, les précédents peuvent éclairer, mais je ne veux pas déflorer la suite de notre conversation.
Brice Couturier.
Moi, je pense qu'on vit... La France n'est pas à l'écart du reste de l'Europe. Et à travers l'Europe, ce qui se passe, c'est une vague populiste. Et cette vague populiste, elle ne concerne pas que l'Europe. Elle concerne aussi les États-Unis et l'Occident de manière générale. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Emmanuel Macron et son élection constituent un coup d'arrêt à cette vague populiste qui a porté au pouvoir Trump et qui a donné le Brexit en Grande-Bretagne et qui a contaminé, en gros, toute l'Europe centrale et orientale, y compris l'Autriche, et qui s'étend. Donc, à mon avis, la grande question, c'est est-ce que Macron marque la fin de cette vague populiste et son reflux ou pas? Est-ce qu'il a les moyens, lui, en tant que dirigeant européen qui se croit un destin effectivement pan-européen, est-ce qu'il a les moyens d'arrêter cette vague ou est-ce qu'il va être emporté par elle? À mon avis, c'est ça la vraie grande question du moment. N'oublions pas qu'au moment des élections, nous avions environ 20% d'extrême droite populiste et 20% d'extrême gauche populiste dans ce pays qui étaient prêtes à en venir aux mains. Nous sommes passés très près de la guerre civile. Elle nous menace encore. D'ailleurs, Macron le dit et il en est conscient. Donc la question de savoir, c'est est-ce qu'il va réconcilier les Frances comme il prétend pouvoir le faire ou non?
Si l'on suit votre raisonnement, Brice Couturier, pourquoi la France aurait-elle été épargnée par cette vague populiste que vous appelez ainsi ?
Grâce à Emmanuel Macron, précisément, parce qu'il est le seul politicien à avoir compris qu'il y avait une opportunité pour quelqu'un qui jouerait la carte que décrit très bien Jean-Noël Jeannet dans son livre, la carte bonapartiste. La carte qu'a joué Napoléon Bonaparte, c'était effectivement quand il y a un équilibre dangereux entre les monarchistes qui voulaient reprendre le pouvoir et les jacobins qui ne voulaient pas le lâcher, on a eu Napoléon. Le recours à Napoléon, effectivement, un pouvoir central et autoritaire, qui réforme le pays et qui met fin à l'ambiance de guerre civile. La question, encore une fois, c'est savoir si Macron en a les moyens.
Jean-Noël Jeannet, alors vous ne voulez pas écraser Macron sous le poids des références historiques. Bonaparte, ça n'est quand même pas une référence extrêmement légère. Quels sont les parallèles que vous pouvez tracer et en tout cas, en quoi y a-t-il là une stratégie qui aurait permis à la France d'échapper à cette vague populiste que décrivait Brice ?
Je ne suis pas prophète, je ne sais pas si le populisme va être dominé, mais je pense qu'en effet, on a progressé dans le bon sens. Alors les précédents, ce sont les moments de notre histoire où on a été marqué par une très très violente opposition entre deux camps. Le sentiment qu'il y avait un vrai risque d'inflammation du corps social. Et c'est vrai que ça a été le cas en 1799, c'était le cas en 1958, bien sûr, au moment de la guerre d'Algérie qui... poser à la France des défis bien plus dramatiques encore que ceux que nous avons eu à affronter tout récemment. Et puis il y a eu aussi évidemment moins connu, mais dans mon livre je m'amuse, j'ai pris plaisir à mettre l'accent là-dessus. 1899, Waldeck-Rousseau. Il faut remettre Waldeck-Rousseau à la mode. Waldeck-Rousseau qui arrive au moment où l'affaire Dreyfus vient de marquer avec le plus de violence possible l'opposition de deux camps et qui vient dire on peut faire un gouvernement où on mettra à la fois un socialiste, Alexandre Millerand, pour la première fois, alors qu'il voulait nationaliser les grandes richesses, et d'autre part un personnage, un général qui avait fusillé la Commune. Voilà un cas de, et d'autre part, un certain nombre de gens de qualité, comme De Gaulle en 58, des technocrates. Et puis trois ans après, et ça pose la question de la durabilité de ce gouvernement des centres, trois ans après, on en est venu à nouveau à un bloc des gauches et à un face-à-face. La question étant à mes yeux, bien sûr, sous la lumière de ces précédents, de savoir ce que cette période va laisser derrière elle de fécond au service d'un mieux vivre ensemble, au service de moins d'injustice, de plus d'équilibre, et par conséquent, on répond là exactement à votre question. Par conséquent, sur la moyenne durée, de déminer tout ce qui peut aboutir, en effet, au populisme et à ces désastres.
Alors, on l'entend, vous êtes plutôt satisfait du choix de ce président. Néanmoins, je vais me faire l'écho de tous ceux qui, aujourd'hui, semblent moins satisfaits que vous, et notamment de ces sondages. À France Culture, on n'aime pas faire de commentaires de sondages, mais on entend aussi de là, malgré tout, qu'il y a une forte déception dans le pays suite à l'élection d'Emmanuel Macron. Comment interprétez-vous cette déception, si, en tout cas, vous en acceptez l'augure, Brice Couturier?
Au bout de six mois, il me paraît vraiment difficile de faire un bilan d'un quinquennat qui probablement d'ailleurs s'étendra sur deux.
On verra.
Le programme de Macron est d'une telle ambition que je le vois mal le réaliser en un seul quinquennat. Et d'ailleurs, il a laissé entendre à plusieurs reprises au cours de sa campagne qu'il lui faudrait davantage. Donc, au bout de six mois, qu'est-ce qu'il a fait? Pour l'instant, on a déjà réformé le code du travail. On nous avait promis, souvenez-vous, beaucoup de journalistes nous avaient promis qu'il y aurait des troubles dans la rue très graves, qu'il y aurait 1 million de personnes pour marcher sur l'Elysée. On n'a rien vu de tout cela, c'est passé comme une lettre à la poste. Comme une lettre à la poste. Il y a eu une journée de grève, elle a été très peu suivie en réalité. Le remplacement de l'ISF par un impôt sur la fortune immobilière, ça va se faire, c'est fait. La flat tax sur le capital à 30%, qui nous aligne sur tous les pays du Nord qui l'ont adopté depuis déjà très longtemps, la Suède, la Finlande, la Norvège, ont toutes la flat tax à 30% sur les revenus du capital. La loi anti terroriste qui va remplacer l'état d'urgence, ça y est, c'est fait. La loi de moralisation de la vie politique, ça y est, c'est fait. Il reste des gros morceaux, en réalité. Il reste la loi sur la formation professionnelle et l'apprentissage qui passeront pas comme une lettre à la poste, elle, parce qu'on sait qu'un certain nombre de ces milliards vont dans la poche d'institutions syndicales et patronales qui se servent au passage et que ça sera difficile de le leur arracher. La baisse de la cotisation, des cotisations sociales, ça sera fait en deux fois. Le problème, c'est que cette baisse des cotisations sociales sera répercuté par une augmentation de la CSG et que moi, mon insatisfaction pour le moment par rapport à Macron, c'est que le budget de l'État va continuer à être fortement endetté, à continuer à endetter le pays et que la dépense publique est extravagante dans ce pays qui est supérieure à en pourcentage du PIB à tout ce qu'on connaît en Europe, n'a pas commencé. Il n'y a pas de décélération de la dépense publique. Or, c'est un des problèmes principaux que ce gouvernement devra affronter.
Votre point de vue, Jean-Noël Jeannet, sur la déception des Français, est-ce que il vous a quand même un peu déçu, Emmanuel Macron? Vous êtes toujours aussi amoureux?
Amoureux, vraiment, ce n'est pas l'adjectif. Si vous lisez mon livre, vous verrez que ce n'est pas la tonalité du tout.
Bonaparte, ça n'est pas.
Bonaparte, ce n'est pas forcément. Non, la comparaison s'arrête.
Ce n'est pas une mince. Une mince comparaison.
Ce n'est pas l'idéal du point de vue des libertés. Napoléon Ier, comme Napoléon III. Non, mon livre, si vous le considérez de près, n'est en rien amoureux. Il est vigilant, il est intéressé, il porte de l'espoir, bien sûr, tout ça est vrai. Mais après six mois, puisque vous vous interrogez sur cet équilibre-là, l'équilibre droite-gauche, il me paraît marqué que les décisions qui se rattachent plutôt à une tradition de droite ont été plus promptes que les autres. Et d'ailleurs, significativement, le fait que Bercy soit dans les mains de ces ministres que vous savez, que j'ai pas besoin de nommer, est significatif. Maintenant, là encore, c'est un cas où il faut pas juger sur six mois. Je pense que dans quelques semaines, j'espère, dans quelques mois, nous allons voir se rééquilibrer Naturellement, il y a déjà eu des mesures qui peuvent être des mesures d'équilibre et de meilleure répartition. Il y a mieux à faire, et pas seulement la formation professionnelle. Bref, nous allons être très, très attentifs, sans être amoureux. Considération, mais pas d'amour.
On l'écoute sur l'une des critiques qui lui est adressée en ce moment. Emmanuel Macron, président des riches.
Est-ce que vous n'êtes pas, monsieur le président des riches ?
J'ai eu vent de cette formule utilisée par certains des opposants politiques et gaiement reprise. Je n'aime pas cette opposition de la société. Quand je vous regarde, je ne regarde pas des riches. Statistiquement, vous l'êtes au regard des statistiques françaises. Bon.
Comme vous ?
Oui. Et alors ? Vous voyez bien que tout de suite, ça crée quelque chose qui est dans le vocabulaire. Ce sont ce que j'appelle les passions tristes de la France. Moi, je ne crois pas à la jalousie française qui consiste à dire « il y a des gens qui réussissent, taxons-les, nous nous porterons mieux ».
Brice Couturier, quand même, président des riches, ça. C'est une étiquette qui lui est très souvent accolée, cette théorie
oui,
du ruissellement.
Par le parti des médias. Théorie... Ah, là je vous prends, Guillaume Herner. La théorie du ruissellement. Je vous ai entendu à plusieurs reprises sur cette antenne nous dire que Macron était un partisan de la théorie du ruissellement. Écoutez, j'ai passé tout mon été à lire tout ce qu'il a écrit. Tout ce qu'il a écrit depuis 20 ans, y compris dans la revue Esprit et dans la revue des Deux Mondes. Je peux vous assurer que à
vous
aucun
en parlez
endroit...
dans Macron, un président
oui,
philosophe.
Dans aucun votre... endroit, je n'ai vu une évocation, ni même une allusion à cette théorie du ruissellement. Mais évidemment, quand on veut faire croire que Macron est le président des riches, on fait croire aussi qu'il est partisan de cette théorie. Il ne l'est pas, nulle part. Trouvez-moi un endroit, une allusion où Macron a fait allusion à cette théorie-là.
Premier de cordée, c'est quand même pas non plus
ben, ça pour n'a qualifier rien à les voir. Riches. Ça n'a rien à voir. Non, écoutez, Macron, c'est quelqu'un qui va supprimer la taxe d'habitation pour 80% des habitants de ce pays, alors même que 70% des ménages payent... 10% des ménages payent 70% de l'impôt sur le revenu. Non, là, on n'est pas dans cette situation où d'une répartition en fonction en direction des riches. La vérité, c'est que les riches, comme vous le savez, fichent le camp de ce pays parce que l'impôt sur la fortune que nous sommes les seuls à pratiquer en Europe les dissuade d'investir. Ce que Macron fait, c'est que il est hostile à la rente. Il l'a dit à plusieurs reprises. C'est pour ça qu'il est hostile, par exemple, et qu'il va maintenir un impôt sur la fortune immobilière, ce qui me paraît effectivement une bonne idée. Mais par contre, que l'argent serve à être réinvesti dans l'entreprise, mon Dieu, ça me paraît plutôt logique. C'est ce que font tous les autres, vous savez. Il y a une exception française et cette exception française nous a précipité dans une espèce de ruine, dans un chômage de masse extravagant et sans exemple réalité dans l'Europe occidentale. Et il faut en sortir. Macron nous en fait sortir en essayant de donner une direction à la fortune qui serait celle de l'investissement rentable dans les entreprises. C'est ça dont nous avons besoin. C'est l'entreprise, c'est pas les riches. L'entreprise, c'est ce qui donne du travail. Comme disait Tony Blair, ce qui est social, c'est ce qui donne du travail.
Jean-Noël Jeannet, votre opinion à ce sujet.
Quel que soit mon intérêt, mon adhésion au projet d'Emmanuel Macron tel qu'il nous l'a présenté, par comparaison aux autres, je dois dire que après ce plaidoyer vibrant, je me sens presque porté vers quelque esprit de critique. En fait, on va pouvoir juger dans les 6 mois, parce que vous nous réinviterez dans 6 mois, 1 an, les anniversaires se
Tous
succèdent.
Tous les 6 mois.
Une chose qui est sûre en histoire, c'est que les anniversaires se succèdent. Eh bien, on pourra voir dans un an, effectivement, si ceux qui, dans cette société, sont délaissés, ceux qui sont au bord du chemin, si on trouve les moyens divers pour s'en occuper. Ça concernera évidemment l'école, c'est absolument décisif par rapport aux déserts sociaux. Là, il y aura des marqueurs, comme on dit. Ça concernera également, bien sûr, la répartition de l'argent, la capacité de rééquilibrer l'opposition entre les villes d'un côté, les métropoles, tout ce qui est urbain et autres, et d'autre part ceux qui sont à côté, puisque nous parlons d'histoire à cet égard, et cela intéresse aussi Brice Couturier, il y a un précédent qui me paraît propre à éclairer la question que nous posons, c'est celui des Saint-Simoniens au XIXe siècle, auquel Macron se réfère très souvent. Or, les Saint-Simoniens, ils libéraient les énergies, ils avaient une certaine indifférence à la nature de l'État, et à un fonctionnement d'une constitution, mais constamment, il marquait qu'il fallait tendre la main à ceux qu'on laissait en bord du chemin. Le père Enfantin, qui est un des grands leaders des Saint-Simoniens, ces socialistes pré-marxistes du XIXe siècle, avait par exemple souhaité que l'on crée un crédit intellectuel pour donner de l'argent à tous les étudiants des familles pauvres qui n'étaient pas portés naturellement par leur milieu et qui pouvaient trouver là le moyen de développer leur talent, leur énergie, leur spécificité. C'est là que nous allons considérer avec le plus d'attention, le plus de vigilance, une sympathie pour ma part spontanée, une espérance, mais aussi une possible sévérité, ce qui va être dit et ce qui va être fait.
Mais ça n'est quand même pas très habituel qu'en France, Jean-Noël Jeannet, un président soit aussi accueillant vis-à-vis des puissances de l'argent. Généralement, on a plutôt l'habitude de dire, de François Mitterrand à François Hollande, en passant d'ailleurs par le général de Gaulle, que ce n'est pas la corbeille qui va mener la France.
On ne fait pas la politique à la corbeille, oui, disait De Gaulle qui disait ça, oui, oui.
Pour la bourse.
Les puissances de l'argent, voilà un mot qui est un peu abstrait, un peu désuet. Comme historien, j'ai toujours envie de distinguer à cet égard. Il y a les mythes, il y avait les 200 familles, il y avait les trusts. Ça existe, les pourvoirs internationaux de l'argent, peut-être plus.
Mais d'ailleurs, alors justement, est-ce que Macron n'est pas en contradiction complète avec cette tradition française?
Je pense que pour lutter contre elle, il est indispensable de constituer de façon plus assurée un État qui ait de l'autorité et de construire une Europe, nous en parlerons peut-être tout à l'heure, qui soit capable d'avoir une vérité dite et de porter une vérité par rapport aux habitants de notre continent et d'assurer une Europe différente, une Europe qui se défende, une Europe qui se protège, une Europe surtout qui serve tous les élans qui peuvent se manifester à l'intérieur d'elle-même. J'espère que nous en parlons, car c'est absolument essentiel, puisque vous nous invitez à faire un bilan des premiers mois de Macron. Il faut parler d'Europe.
Promis, on en parlera aux environs de 8h20. Brice Couturier, Macron, un président philosophe aux éditions de l'Observatoire. Jean-Noël Jeannet, Le moment Macron, un président et l'histoire aux éditions du Seuil. Il est 8h sur France Culture.